Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, on se penche sur un basculement historique. Le 2 mai 1997 au Royaume-Uni, le Parti travailliste rafle 418 sièges. Les conservateurs, qui étaient au pouvoir depuis 18 ans, sont complètement balayés.
Ouais, une raclée monumentale. On part d'une majorité absolue de 179 sièges pour la gauche.
C'est ça, et la question centrale qui nous anime aujourd'hui, c'est de comprendre comment un tel raz-de-marée a pu se produire. Est-ce que le parti a opéré une sorte de redessinage total pour conquérir un nouveau marché électoral? C'est ma thèse, je suis convaincue que c'est le cas. Ou bien, et je crois que c'est votre angle, est-ce qu'on a simplement assisté à la faillite inévitable d'un parti conservateur à l'agonie?
Alors, je penche très clairement pour la faillite systémique. Pour moi, l'élection de 1997 était déjà jouée des années avant même le début de la campagne. La gravité a fait son œuvre sur un gouvernement usé jusqu'à la corde et les travaillistes n'avaient plus qu'à ramasser la mise.
Attendez, on ne gagne pas 145 sièges supplémentaires par simple gravité. Il a fallu une métamorphose idéologique radicale. Si on prend la fameuse clause Faure en 1995, en la supprimant, le parti abandonne le dogme des nationalisations. Ils acceptent publiquement l'économie de marché.
C'est vrai, c'est un tournant.
Et puis il y a eu cette discipline de fer, notamment avec le pacte de Granita.
Ah oui, cet accord secret dans un restaurant pour se partager le pouvoir, c'est ça?
Exactement. Un pacte de non-agression absolue pour éviter la guerre civile fratricide habituelle à la tête de la gauche. Tout était verrouillé. Et ils ont ensuite ciblé la classe moyenne avec une promesse très rassurante, celle de ne pas toucher au taux de base de l'impôt sur le revenu. C'est une stratégie active, millimétrée. Ce n'est pas juste un héritage passif.
Sur le papier, c'est brillant, je vous l'accorde. Mais regardons un peu le calendrier. La catastrophe conservatrice ne s'est pas construite en réaction à ces promesses. Elle s'enracine très précisément le 16 septembre 1992, lors du Mercredi Noir. Le gouvernement tente alors désespérément de maintenir la livre sterling dans le mécanisme de change européen.
Vous parlez du moment où ils essayaient de racheter leur propre monnaie pour maintenir sa valeur face à la spéculation, hein ?
C'est ça. Et ce fut un désastre absolu. La Banque d'Angleterre a littéralement brûlé des milliards de réserves en quelques heures. Ils ont promis de huisser les taux d'intérêt à 15% l'après-midi pour finalement capituler à 10% le soir même et sortir du système piteusement.
Ouais, l'humiliation totale.
Je suis convaincu que c'est ce jour-là, très exactement, que le mythe de la compétence économique des conservateurs a explosé. Les sondages se sont inversés définitivement.
D'accord, l'échec de 92 est cuisant. Mais justement, comment convaincre les marchés financiers de faire confiance à la gauche après ça? L'idée de génie, le vrai coup de maître, ça a été de promettre l'indépendance de la Banque d'Angleterre.
Ce qu'ils ont d'ailleurs concrétisé à peine 4 jours après l'élection.
Voilà le paradoxe fascinant. Pour gagner le pouvoir politique, ils devaient promettre d'en céder une partie. Donner les clés des taux d'intérêt à une institution indépendante, c'était le signal institutionnel ultime pour rassurer la City. C'est une innovation majeure.
L'innovation est réelle, mais le terrain était complètement vague. Les conservateurs n'avaient plus aucune crédibilité économique. Et politiquement, c'était encore pire avec le climat de scandale.
Ah, la corruption généralisée.
Un dégoût public viscéral. Le parti se déchirait publiquement sur Maastricht. Et regardez les affaires. Un député conservateur, accusé d'avoir pris des enveloppes d'argent liquide, se fait chasser de son siège par un simple journaliste en costume blanc qui fait campagne sur l'anticorruption.
Oui, l'image de la chute de Portillo résume bien ça.
Absolument. À 3h du matin, le puissant ministre de la Défense perd son siège en direct à la télévision face à un jeune inconnu de 30 ans. Ce n'est pas une victoire de l'ingénierie travailliste, c'est l'establishment de conservateurs qui est vomi par le pays tout entier.
Je vous accorde que l'usure était terminale, mais là où je bloque avec votre théorie de l'effondrement naturel, c'est que la colère populaire aurait très bien pu se traduire par une simple courte majorité. Si le parti l'a capté de cette manière, c'est par deux mécanismes précis. Prenez leur fameux slogan « dur avec le crime, dur avec les causes du crime ».
C'est une bonne formule de com' politique, non?
C'est bien plus que ça. C'est une véritable tenaille idéologique. En promettant d'être dur avec le crime, ils volent le monopole traditionnel de la droite sur la sécurité. Et en ajoutant les causes du crime, ils rassurent immédiatement leur base de gauche en parlant de pauvreté. Le mécanisme était si parfait qu'ils ont réussi une prise de guerre inimaginable, le soutien du tabloïd ultra-conservateur The Sun.
Oh waouh, c'est vrai!
Il fallait de grands architectes pour structurer cette vague rouge.
Je concède volontiers que l'exécution était d'une précision chirurgicale, mais je reste convaincu qu'une victoire d'une telle magnitude nécessite, avant toute chose, un adversaire qui se saborde avec une obstination presque pathologique.
Bien, nous sommes au moins d'accord sur un point. Ce choc institutionnel est le fruit d'une intersection historique parfaite. Il fallait à la fois un effondrement fatal d'un côté et de l'autre une machine politique redoutable capable de ne pas effrayer des électeurs en fuite.
Absolument. C'est bien cette rencontre qui a redessiné le Royaume-Uni pour la décennie suivante.
Tout est fait. Nous laissons donc le soin à nos auditeurs de trancher en explorant davantage les sources de cette période. En politique, est-ce l'innovation audacieuse de l'opposition qui forge l'histoire ou est-ce l'incompétence du pouvoir qui creuse inévitablement sa propre tombe ? À vous de juger.